Je présente la parole à Son Excellence Wilfred Ellerington, avocat général, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Belize.
Good morning.
Bonjour à tous. Monsieur le Président, au nom du gouvernement et du peuple de Belize, je tiens à féliciter Son Excellence Sam Kutesa à l'occasion de son arrivée à la tête de l'Assemblée générale pour cette 69e session. Je saisis aussi cette occasion pour remercier, au nom de Belize, son prédécesseur, un fils des Caraïbes, notre région, Son Excellence Monsieur John Ash, qui s'est acquitté de sa tâche d'une façon remarquable ces 12 derniers mois et laisse un legs précieux à cette organisation. Monsieur le Président, le thème que vous avez choisi comme fil conducteur pour notre débat général, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement durable pour l'après 2015, est ambitieux, plein d'espoir, audacieux. Nous vous félicitons pour ce choix. Au cours des 12 prochains mois, nous nous efforcerons de contribuer à nos travaux dans ce sens. Pour vous, notre nouveau programme devrait, je cite, « promouvoir une croissance économique inclusive et durable, préserver l'avenir de notre planète et déboucher sur l'avènement d'un développement durable ». Fin de citation. Vous dites aussi, je cite, que l'éradication de la pauvreté et de la faim sera au cœur de ce programme. Fin de citation. Pour nous, ce sont des impératifs. Et si nous n'atteignons pas ces objectifs, les conséquences seront graves pour notre pays et pour notre peuple. Notre peuple souhaite une vraie mobilisation de nos sociétés. À la base, pour que cela soit possible, nous devons donner à tous les acteurs de nos sociétés les outils nécessaires pour qu'ils endossent leurs responsabilités et puissent tirer profit des fruits d'une croissance économique durable, accompagnée de justice sociale et d'équité. Notre expérience dans nos efforts pour atteindre les OMD, cependant, ne laisse guère de place à un optimisme béat quant à nos possibilités de réaliser les objectifs de notre programme de développement pour l'après 2015 d'une façon meilleure que ce que nous avons fait auparavant. Nous savons que certains États membres ont promis un appui important pour la réalisation des OMD, mais ces promesses ne se sont pas matérialisées dans les proportions que nous attendions. Les petits pays comme le mien sont pour la plupart désavantagés par leur manque de ressources, leur manque de capacités humaines, financières, scientifiques, technologiques, qui sont une condition préalable au succès d'initiatives si ambitieuses et si complexes. Sans coopération, sans aide de la part des États membres des Nations Unies pour répondre à ces besoins, de la part des États membres des Nations Unies, je l'ai dit, mais aussi des agences multilatérales et surtout sans réforme des politiques des institutions financières internationales, le Belize aura des difficultés de taille à surmonter pour réaliser le programme de développement pour l'après 2015. Nous nous félicitons de l'adoption par la 68e session de l'Assemblée générale de la résolution A/RES/304 intitulée, je cite, vers la création d'un cadre juridique multilatéral pour les processus de restructuration de la dette souveraine. Fin de citation. Nous espérons que cela conduira à un traité multilatéral robuste à même d'étayer l'efficience, la stabilité et la prévisibilité du système financier international. Après la crise économique et financière internationale de 2008, et avec les nombreuses catastrophes qui ont secoué le monde ces 6 dernières années, et qui ont donc rendu nécessaire le développement de fonds importants pour porter secours aux victimes, on est face aujourd'hui à des signes inquiétants de lassitude de la part des bailleurs de fonds, une tendance à l'isolationnisme, à l'égoïsme parfois dans notre environnement mondial. Cela n'augure rien de bon pour le financement du programme de développement pour l'après 2015. Et pourtant, malgré tout, nous restons optimistes, tout en faisant preuve de prudence. Ces 7 derniers jours, des dirigeants venus de tous les pays du monde, grands comme petits, des amis, des ennemis, se sont rendus dans cette auguste assemblée. Tous ces dirigeants ont parlé depuis la même tribune et tous ont réaffirmé la conviction selon laquelle leurs pays respectifs s'engagent dans l'action collective sous la houlette des Nations Unies pour résoudre la myriade de problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Les changements climatiques, le virus mortel de l'Ebola, le fanatisme religieux ou encore la pauvreté qui persiste et le sous-développement. De tous ces maux, pour nous, les changements climatiques sont les plus pernicieux. Il semble qu'enfin nous soyons parvenus à un consensus quant aux causes et aussi quant aux remèdes nécessaires face à ce phénomène apocalyptique. Et pourtant, la volonté politique fait défaut et les plus gros émetteurs ne semblent pas suffisamment inquiets pour agir de façon déterminante. La communauté internationale a trop attendu pour prendre des initiatives promptes pour prévenir le massacre au Rwanda ou encore la propagation rapide du virus Ebola en Afrique. Et de la même façon aujourd'hui, les gros émetteurs remettent à plus tard les mesures qui s'imposent pour faire face aux défis que représentent les changements climatiques. De toute évidence, les menaces que représentent les épidémies, les pandémies et le terrorisme pour la planète et pour l'humanité deviennent insignifiants lorsqu'on les compare aux menaces existentielles des changements climatiques. En outre, il est tout aussi évident que l'on peut dire, sans craindre d'exagérer, que le temps presse. D'ores et déjà, les signes des changements climatiques et leurs conséquences sont catastrophiques dans le monde entier. Sécheresse extrême, inondations, précipitations intenses, ouragans, fonte des glaces, hausse des températures des mers, hausse des niveaux des mers, tout comme l'essor terrifiant de nombreuses maladies. Mon propre pays, le Belize, fait déjà l'expérience, entre autres, du blanchiment des coraux, de l'érosion côtière, des inondations. Et l'année prochaine, selon certaines prévisions, tout notre pays sera frappé d'une grave sécheresse. Le prix des efforts de mitigation face aux dégâts qui sont déjà avérés dans mon pays est un prix extrêmement élevé, tout comme le prix de l'adaptation au changement climatique. Monsieur le Président, l'heure est venue pour les gros émetteurs de cesser de se regarder en chien de faïence et de s'engager à empêcher une hausse des niveaux des mers supérieure à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Nous nous félicitons des promesses qui ont déjà été faites pour alimenter le Fonds vert pour le climat, mais le montant total nécessaire pour lutter contre les changements climatiques est bien plus important. Cela étant dit, nous restons optimistes. Nous espérons qu'un accord solide en matière de changement climatique pourra être signé à Paris en 2015. Les besoins des pays grands comme petits en matière de développement et de sécurité à l'heure de la mondialisation ont encore accru la nécessité d'intégration régionale. Il est impossible ou presque pour un pays quel qu'il soit de fonctionner de façon isolée, dans quelque domaine que ce soit. Dans le cas de mon pays, le développement et la sécurité dont nous avons joui ces 33 dernières années depuis notre indépendance sont le résultat en grande partie des bonnes relations que nous avons tissées et que nous continuons de tisser avec nos partenaires dans les différents groupes régionaux auxquels nous appartenons. C'est le résultat aussi de programmes de coopération excellents avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont les agences des Nations Unies qui figurent en bonne place. Cependant, même si nous sommes reconnaissants à nos partenaires pour leur contribution de taille à la sécurité et au développement de notre nation, notre gouvernement n'oublie jamais que la responsabilité première en matière de sécurité et de développement incombe à notre gouvernement et à notre peuple. Étant donné la nature limitée des ressources à notre disposition, notre gouvernement a dû dresser une liste de priorités. Il s'est concentré sur les besoins de base de notre nation, à savoir la sécurité, le logement, l'éducation, la santé, l'emploi et la création de richesses. Parmi ces priorités, la plus absolue est le besoin de protéger la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Les gouvernements qui se sont succédés à la tête de mon pays ont lourdement investi dans les efforts visant à permettre un règlement pacifique du différend qui nous oppose au Guatemala. Notre gouvernement est déterminé à rester pacifique dans cette entreprise. En passant devant la Cour pénale internationale, nous avons demandé l'appui de tous nos partenaires, de tous nos amis sur la scène internationale. Et le gouvernement du Guatemala, à travers l'accord spécial de 2008, s'est aussi engagé à respecter la résolution de la Cour pénale internationale. Nous sommes convaincus que tout conflit international, toute guerre, toute rumeur de guerre ne peut que provoquer douleur et souffrance. C'est pourquoi nous continuons de travailler avec assiduité avec nos voisins dans la région pour cimenter notre amitié de façon pacifique et pour tisser des relations productives et de collaboration afin de profiter au développement de tous nos peuples. Nous nous félicitons, Monsieur le Président, que la communauté d'Amérique latine et des Caraïbes ait récemment désigné toute notre région comme une zone de paix. Nous applaudissons aussi, Monsieur le Président, l'appel que vous avez lancé pour que les efforts visant un règlement pacifique de tous les différends soient intensifiés. Sur la scène nationale, nous avons joui de paix et d'harmonie de façon ininterrompue ces 33 dernières années. Notre gouvernement agit avec rapidité et avec sagesse pour éviter toute situation de trouble civil ou de désordre civil quand il envoie les premiers signes. Et nous investissons de façon substantielle dans nos forces de sécurité, à la fois en matière de renforcement des capacités et en matière d'équipement et de transport. Dans notre quête pour créer de la richesse, des emplois et faire advenir un développement durable, nous nous penchons notamment sur les recommandations qui figurent dans notre plan national de développement Horizon 2030. Dans cet esprit, notre gouvernement travaille de concert avec des experts en matière de développement économique venus du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et autres institutions spécialisées. Parmi les initiatives que nous avons lancées figure un programme global d'infrastructures qui sont construites à travers le pays, notamment la réfection et l'agrandissement des autoroutes, la réfection des rues dans nos villes et nos villages, l'installation de nouveaux systèmes d'égouts et d'évacuation des eaux dans les zones frappées par les inondations, la construction de stadiums ou autres sites ayant pour but les loisirs. Ces programmes ont été exécutés à l'aide d'un montant total de 100 millions de dollars. Grâce à notre coopération avec la République bolivarienne du Venezuela, grâce à l'appui de l'initiative Petro-Caribé, notre gouvernement a pu investir dans les infrastructures et des programmes sociaux au bénéfice de tous nos citoyens. Le gouvernement de Belize sait qu'il est important de se doter de bonnes infrastructures pour notre développement économique. Le Belize exporte de nombreuses matières premières. Tous les produits agricoles sont transportés par voie terrestre depuis les fermes vers les ports où ils sont ensuite exportés. Les produits issus de l'aquaculture ou les produits pétroliers sont également transportés vers les ports pour être exportés. Tous nos sites archéologiques et bon nombre des installations touristiques dans notre pays sont aussi accessibles par la route. Notre gouvernement espère qu'avec l'amélioration de notre réseau routier, notre gouvernement deviendra plus attirant à la fois pour les résidents et pour les étrangers, qu'ils soient touristes ou investisseurs, et que cela débouchera sur une hausse rapide de notre productivité, de notre croissance économique et de notre création de richesses. Pour faire en sorte qu'autant de travailleurs de Belize que possible obtiennent des emplois dans le secteur des infrastructures, le gouvernement a demandé à tous les sous-traitants qui ont obtenu des contrats d'utiliser un travail manuel à chaque fois que c'est faisable. De cette façon, de nombreux jeunes de mon pays ont trouvé un emploi, à la fois de jeunes hommes et de jeunes femmes. Initiative supplémentaire visant à stimuler le développement économique, notre pays a créé sa première banque nationale il y a un an. Ses débuts ont été modestes. Ces opérations ont commencé par la fourniture de prêts, notamment pour financer l'achat de maisons pour la classe moyenne. La création de la banque, même si elle était modeste au début, a donné comme résultat une réduction spectaculaire et immédiate des taux d'intérêt demandés par les banques commerciales pour de tels prêts. C'est une vraie réussite. La base de clients de notre nouvelle banque croît rapidement et elle a commencé à accepter des dépôts. Les perspectives pour les jeunes de Belize de pouvoir acheter une maison à un prix abordable avec un prêt abordable augmente rapidement. Plusieurs programmes lancés par des gouvernements successifs avaient déjà permis à nombre de nos concitoyens de devenir des propriétaires fonciers. Notre gouvernement essaie aussi d'attirer les investissements directs étrangers, notamment en matière d'externalisation du processus d'entreprise. Nous attirons aussi des investissements dans le domaine de l'extraction pétrolière, des centres d'appel, de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables et du tourisme. Le 21 septembre 1981, jour de l'indépendance, nous avons hérité d'un système scolaire qui avait été conçu pour servir les intérêts des colonies à l'époque industrielle. L'activité économique principale était l'exportation du bois de construction et du sucre. Depuis, nous avons fait des efforts sans relâche pour transformer ce système scolaire, pour qu'il puisse répondre aux besoins d'une nation indépendante en ce 21e siècle, l'ère de l'information. C'est une tâche difficile et c'est aussi une tâche très chère. Notre gouvernement consacre aujourd'hui 20% du budget national au secteur de l'éducation. Et pourtant, le compte n'y est pas loin de là pour couvrir les coûts des besoins en matière de formation et d'éducation de nos jeunes. Cependant, nous savons que la qualité de la force de travail dans notre pays va déterminer en grande partie notre développement futur. Et c'est pourquoi nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos travailleurs soient les plus compétents, quel que soit le prix, et sans y regarder à deux fois lorsque nous devons faire des sacrifices. Notre gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour l'éducation de notre population, dont un programme de formation pour les enseignants et un programme de certification. Les enseignants recevront une formation en pédagogie et dans les différentes matières qu'ils devront enseigner ensuite aux classes. Dans un même mouvement, nous étendons aussi l'éducation qui ira de l'ère pré-primaire jusqu'à l'éducation tertiaire. Les jeunes aujourd'hui ont plus de chances que jamais dans l'histoire de notre nation d'obtenir un diplôme, d'être éduqués, de trouver une place au sein des établissements scolaires. Nous sommes en train de mettre sur pied un nouvel institut pour la science et la technologie. Et de plus en plus de centres de formation voient le jour à travers notre pays. Nous ne possédons que deux universités qui sont assez récentes. C'est pourquoi nous fournissons des efforts importants pour permettre un accès aux universités et autres institutions scolaires de haut niveau à l'étranger pour les étudiants qui réussissent les tests d'examen pour entrer dans ces institutions. Nous avons jusqu'ici remporté un grand succès dans cette entreprise. La grande majorité de nos étudiants se rendent dans de telles institutions grâce à des bourses, grâce à la générosité aussi de nos partenaires. Chaque étudiant de notre pays qui obtient les résultats scolaires suffisants a les mêmes chances de gagner une bourse. Les données aujourd'hui montrent que les jeunes femmes ont tout aussi de chances et même davantage de remporter une bourse que les jeunes hommes. Nos initiatives dans le secteur de l'éducation permettent d'améliorer les qualifications de la force de travail à tous les niveaux. Donc, nos travailleurs peuvent produire des biens et services de façon compétitive sur les marchés mondiaux. Nous continuons dans ces efforts et nous allons avoir besoin encore et encore de l'appui des Nations Unies et de son réseau remarquable. Nous consacrons 13% de notre budget au secteur de la santé. Nous voulons que notre population puisse vivre en bonne santé, qu'elle soit productive. À cette fin, notre gouvernement étend les programmes d'alimentation à l'école à travers tout le pays, ainsi que des programmes qui permettent aux parents pauvres d'acheter des denrées alimentaires à des prix subventionnés. Nous savons que des repas équilibrés et réguliers sont essentiels pour la santé de notre population et qu'il est bien moins coûteux de veiller par la prévention à ce que notre population soit en bonne santé que de lui permettre ensuite de se soigner. Nous continuons de renforcer le réseau de soins primaires, de revoir à la hausse les installations dans nos hôpitaux, nos cliniques en matière de diagnostic, notamment notre hôpital public principal aujourd'hui bénéficie d'une amélioration technologique remarquable. Nous avons aussi récemment inauguré un nouveau service néonatal dans cet hôpital. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un centre de santé de pointe qui vise exclusivement à répondre aux besoins en matière de santé des enfants handicapés a vu le jour. C'est le fruit des travaux de la femme de notre Premier ministre qui est envoyée spéciale pour les femmes et les enfants. C'est elle qui était en première ligne pour lever les fonds nécessaires à la construction de ce centre et qui a supervisé sa construction. Nous saisissons cette occasion pour applaudir les efforts consentis par notre envoyé spécial qui, il y a quelques jours à peine, a aussi organisé l'un des plus grands rassemblements de premières dames et d'épouses de chefs d'État et de gouvernement pour évoquer les questions de l'autonomisation des femmes et des filles ici au siège des Nations Unies. Cette manifestation parallèle est un appel universel à l'action pour agir dans le domaine de la santé financière des femmes et des filles sur la base du plan d'action de Beijing. Nous appelons tous les gouvernements et toutes les organisations internationales à travailler à cette noble cause. Au cours du dernier exercice budgétaire, l'étendue de l'assurance santé a été augmentée et grâce à notre coopération avec Cuba, nous sommes en train d'accroître le nombre de personnels de santé spécialisés. Il y a 3 semaines, nous avons accueilli un contingent de 35 docteurs nouvellement formés, le plus large contingent de médecins jamais accueilli dans notre pays en une seule année. Les citoyens de notre pays sont notre ressource la plus précieuse. Nous voulons investir dans notre population, améliorer ses qualités, ses talents, et améliorer la qualité de vie dont elle jouit. Monsieur le Président, les victimes des luttes mondiales et des tragédies internationales sont toujours des êtres humains. Les Nations Unies ont été créées pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. La guerre, qui, nous le savons, ne fait que semer la mort, la destruction et les souffrances pour toute l'humanité. Notre pacte, c'est de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de l'homme ainsi que la dignité et la valeur de la personne humaine. Toutes les personnes, les femmes et les hommes, dans les nations grandes comme petites. Le virus de l'Ebola est une menace de plus en plus terrifiante. Nous sommes déçus que les agences internationales de santé n'aient pas réagi de façon plus vigoureuse face à l'épidémie d'Ebola il y a de nombreux mois maintenant. Cependant, nous saluons l'initiative prise par le secrétaire général de lancer une mission spéciale pour réagir. Nous faisons nôtre sans réserve l'appel visant à ce que la République de Taïwan puisse participer aux travaux des agences spécialisées des Nations Unies. À l'heure d'aujourd'hui, il est incompréhensible que nous tenions tant à nous priver des trésors de savoir de la République de Taïwan. Si nous restons fidèles au principe d'inclusion tel qu'il est consacré dans notre charte et promu dans le programme de développement pour l'après 2015, nous devons, Monsieur le Président, continuer à appeler au respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Les massacres et la destruction aveugle dont a récemment souffert le peuple palestinien, notamment des femmes et des enfants sans défense, insulte notre humanité commune. Nous redisons ici notre plein soutien pour un règlement du conflit israélo-palestinien à travers des moyens diplomatiques et pour la coexistence de l'État d'Israël et de l'État de Palestine dans la paix et la sécurité dans les frontières d'avant 1967 reconnues par la communauté internationale. Monsieur le Président, le Belize est convaincu que tout débat entourant un futur programme de développement doit inclure la disparition des pratiques unilatérales nocives qui empêchent le développement où que ce soit. À cet égard, nous voulons, à l'instar du reste de la communauté internationale, appeler à la levée de l'embargo anachronique contre Cuba. Pour nous, en matière de développement, une priorité absolue est de garantir la durabilité de notre environnement. Qui doit être un havre pour la démocratie, la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous pensons que la croissance économique ne doit pas être recherchée à tout prix, mais nous pensons également que notre peuple ne devrait pas avoir renoncé au développement pour protéger son environnement naturel. Pour nous, opposer environnement et développement, c'est commettre une erreur. C'est pourquoi nous faisons pleinement nôtre le principe du développement durable. Monsieur le Président, pour notre salut et celui de la terre entière, le monde doit s'engager sur le chemin du développement durable. Je vous remercie.
Je remercie l'avocat général et ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur du Belize pour cette intervention.